en méditant sur ces lectures de la Toussaint, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, alors que c'est les mêmes lectures d'année en année, mais comme quoi la parole de Dieu, elle s'éclaire de façon différente. Je n'avais jamais remarqué quelque chose dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dieu vivant, le Dieu vivant crie d'une voix forte, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau les serviteurs, le front des serviteurs de notre Dieu. Auxerre, ne touchez pas à la terre, ne touchez pas à la création, jusqu'à ce que la vie éternelle s'accomplisse. Et j'aimerais méditer avec vous sur le lien entre la défense de la nature et la vie éternelle. Lien que l'on fait assez peu, alors que c'est quelque chose qui, au fond, est assez intéressant de voir, par exemple, dans la vie des saints, la place des animaux dans la vie des saints. Saint Roch et son chien, vous savez, le chien de Saint Roch qui allait prendre du pain sur une table apportée à un malade, etc., qui léchait ses plaies et guérissait. Saint François et le miracle des loups. Saint Antoine qui est souvent représenté avec un cochon. Saint Gilles qui retire une flèche du flanc d'une biche et la guérit. Saint Hubert qui protège un cerf et dans les bois du cerf apparaît un crucifix. Et Saint Jérôme, par méditer au désert, il guérit un lion blessé et l'amène au monastère. Et comme disons, c'est comme un animal de compagnie pour lui. Le lien entre les saints et les animaux et la création en général est assez intéressant parce que ça nous montre que d'une manière ou d'une autre, la vie éternelle donne un autre éclairage sur notre vie terrestre. Et la manière dont nous avons de concevoir la vie éternelle nous permet aussi, à travers les réalités terrestres, d'accéder à Dieu. C'est ce que nous chantions ce matin dans le cantique des trois enfants, le livre de Daniel. « Et vous, la lune et le soleil, bénissez le Seigneur, les astres du ciel, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, océans, rivières, baleines et bêtes de la mer, vous tous, oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. » Au fond, découvrir que nous sommes les gardiens de la nature. Découvrir que nous sommes non pas les possesseurs, mais les propriétaires de cette création, mais que nous aurons aussi à rendre des comptes. Qu'au fond, la vie éternelle fait que chacun de nos actes retentit dans l'éternité. Chacun de nos actes, que ce soit envers le prochain proche, envers la création, envers les personnes qui nous sont plus lointaines, chacun de nos actes, d'une manière particulière, pèse. Ça veut dire que la présence de la vie éternelle nous donne comme un poids à nos actions, nous donne comme une force. Et donc la manière dont nous traitons la création, bien souvent, est synonyme de la manière dont nous traitons les personnes humaines. Parce que, aussi, quelle est la nature la plus proche de nous ? C'est les corps, notre corps, c'est la nature la plus proche de nous. La manière dont nous traitons notre corps, la manière dont nous traitons les corps des autres, c'est aussi la manière dont nous traitons la création. Et inversement, et le pape François, dans son texte absolument remarquable sur l'écologie, Laudato Si, dit « Le cri de la terre, c'est le cri des pauvres. » Et le cri des pauvres, c'est le cri de la terre. Donc c'est bien, il rappelle pape François très fortement, que tout est lié. Que nous avons un côté lié entre la réalité céleste et la réalité terrestre. Que nous ne voyons pas de façon, de la même manière que ceux qui ne croient pas, nous ne voyons pas cette réalité. Nous sommes les gardiens de notre création. Nous sommes les gardiens de notre frère. Et c'est un même amour qui nous unit. Alors oui, c'est intéressant de voir les béatitudes dans cette perspective. Au fond, est-ce que face aux frères, face à la création, on n'a pas à avoir aussi une attitude de pauvre et vivre cette béatitude qui est au présent, vous l'aurez remarqué, c'est-à-dire déjà le royaume des cieux est à eux, alors que les autres sont au futur. Là, c'est l'invitation à être rentré dans une modestie face à l'utilisation des biens matériels. Et on le voit bien, le dérèglement de la création, l'utilisation excessive de la création vient de quoi ? Vient du péché, vient du désir de toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir. Alors oui, pour nous, c'est quelque chose qui... nous disons non, nous avons la vie éternelle, nous avons les saints qui ont une intimité particulière avec la création. J'en ai cité quelques-uns, mais il en est bien d'autres, certainement, tous ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'au fond, ils vivent, le saint a une vie unifiée. Et donc, il vit de façon unifiée ce qui l'entoure comme la réalité céleste qui l'attend. Et donc, et on peut continuer la béatitude, les béatitudes en les appliquant à la nature. Par exemple, la douceur, avoir une certaine douceur par rapport à la création qui nous entoure. Avoir une douceur, c'est-à-dire avoir, en prendre soin, savoir que nous sommes les gardiens, que cette création, c'est assez intéressant, à l'aide de saint Paul. Saint Paul qui dit « La création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Elle a été livrée au pouvoir du néant, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable. » D'une certaine manière, le salut de tout le monde visible est lié au salut de l'homme. Et la destinée universelle, la destinée éternelle, c'est cette visée éternelle que nous avons, où nous sommes sauvés par le Christ veut aussi sauver à travers nous la totalité du monde créé. Donc c'est intéressant, on se dit, mais comment est-ce que ce sera cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux ? On n'en sait rien, parce qu'on n'a aucun d'entre nous n'a d'expérience de cette réalité céleste. Mais nous savons que, nous dit saint Paul, nous l'avons foi en sa parole, que cette création, d'une manière ou d'une autre, elle s'est sauvée. Notre corps, qui est ce que nous avons le plus proche de la nature, qu'est-ce qui est naturel en nous, c'est notre corps sera glorifié. Notre corps, à la fin des temps, justement, là où disait le livre de l'Apocalypse, où les serviteurs auront sur leur front le signe de l'agneau, la marque de l'agneau, eh bien voilà, à ce moment-là, notre corps sera aussi glorifié. Toute cette création sera comme transpercée par la gloire de Dieu, sera comme translucide à la gloire de Dieu. Et nos corps de misère, nos corps mutilés, nos corps vieillissants, malades, handicapés, ces corps-là, ils seront glorifiés. Ils seront pleins de cette gloire de Dieu. Alors, vous voyez, le fait de croire à la vie éternelle, ça change complètement le rapport à la dignité humaine. Ça change complètement le rapport à la création, à la nature. Nous ne mettons pas... Quand on croit en la vie éternelle, quand on est parent et qu'on met un enfant au monde, nous ne croyons pas que nous le mettons au monde pour la fosse, pour la tombe. Nous croyons que nous le mettons au monde pour la vie éternelle. C'est-à-dire que ce petit qui est confié à ses parents, d'une manière ou d'une autre, un jour contemplera Dieu face à face. Nous le croyons. Et donc ça change évidemment tout à fait la manière même d'éduquer. Parce qu'on fait prendre conscience petit à petit à l'enfant qu'il y a autre chose. Et parfois avec les départs des proches, des grands-parents ou de gens plus âgés, etc., tu vois, papy, mamie ou telle personne, etc., elle est auprès du Seigneur. Du coup, l'enfant petit à petit prend conscience qu'il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Et cet autre monde... loin de nous désintéresser de ce monde visible, au contraire, nous implique dans ce monde visible. Et c'est beau de voir que dans l'histoire de l'Église, parce qu'elle a cette certitude que les béatitudes ouvrent les portes de la vie éternelle, eh bien, elle s'est impliquée aux limites de l'humain, là où l'humain était le plus moins humain, que ce soit à travers les hôpitaux, à travers les écoles, les dispensaires, l'aide sociale de toute forme, mais parce que cette personne humaine, qui est en fragilité, qui est en précarité, elle est appelée à la vie éternelle. Mère Teresa, tout ce qu'elle a fait, ce n'est pas simplement une ONG. Le pape François le rappelait, l'Église, ce n'est pas une ONG. Et c'est parfois un petit peu, on peut parfois, disons, un peu désolé de voir que dans les œuvres sociales, on ne rappelle pas les fins dernières. On ne rappelle pas justement que cette personne dont on prend soin, qui est malade ou qui a besoin d'être enseignée ou qui a besoin d'être soutenue d'une manière ou d'une autre, on ne rappelle pas qu'elle est appelée à contempler Dieu face à face. Et nous serons semblables à lui. C'est ce que nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture. Hein, parce que nous le verrons tel qu'il est. Hein. Et donc nous serons Dieu, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous nous reconnaîtrons dans l'humanité du Christ, nous nous reconnaîtrons nous-mêmes. Et donc, comment faire pour se reconnaître dans l'au-delà, dans l'humanité du Christ, sinon de s'être reconnu nous-mêmes dans l'humanité du prochain, de s'être reconnu nous-mêmes dans cette création qui est le lieu aussi d'accès à la divinité. Vous savez, la nature, les philosophes qui n'avaient pas la foi, les philosophes grecs disaient, c'est l'art divin inscrit dans les choses. C'est-à-dire que pour accéder à Dieu, en perçant les mystères de la nature, je découvre un ordre. Et qui est-ce qui a mis cet ordre? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Alors, les philosophes grecs n'avaient pas cette révélation que nous avons. Nous l'avons, mais nous affirmons que le scientifique qui perce les mystères de la nature est d'abord un contemplatif. C'est d'abord un contemplatif. C'est d'abord quelqu'un, justement, qui découvre, qui se met à l'écoute d'eux, qui a l'intuition, qui a un ordre qui est donné, et à travers cet ordre, bien de rendre grâce au Créateur et d'être lui-même dans l'action de grâce, de pouvoir percer avec son intelligence humaine les mystères de la nature. Alors oui, c'est, je trouve, cette vie éternelle qui parfois paraît quelque chose d'assez lointain, ça l'est, mais en même temps ça peut être très proche, ça peut être aujourd'hui. La vie éternelle, la fin du monde pour nous, c'est le moment de notre mort, et ça peut être aujourd'hui. On ne sait que trop dans ces jours que la mort peut arriver de façon brutale. Hein, mais voilà, on se dit, voilà, on aura vécu cette vie dans cette attente de contempler Dieu face à face. Et on le verra face à face dans l'au-delà, mais ici c'est dans la foi qu'on le contemple. Dans la foi, nous contemplons Dieu, nous découvrons de façon petite, disons modeste, parce que la foi, vous savez, c'est ce qu'on appelle un régime d'indigence. C'est un régime d'indigence, c'est-à-dire c'est faute de mieux. Faute de quoi? Faute du face-à-face. Nous sommes de passage. Nous sommes, dira Saint Paul, nous sommes des étrangers, nous sommes de passage. Nous sommes dans ce monde, nous ne mettons pas, nous nous installons pas. Parce que nous savons que demain, nous pouvons partir vers l'éternité. Alors, cette pensée de l'éternité, je trouve ça donne un goût à la vie qui est différent. Ça donne un goût à nos actes et une responsabilité dans nos actes, sachant qu'ils retentissent précisément dans l'au-delà. Ce que j'ai fait à la création, ce que j'ai fait à mon frère, ce que je me suis fait à moi-même, ce que j'ai fait évidemment à Dieu, en ne les respectant pas, eh bien, ça retentit, ça a des conséquences. C'est-à-dire que ça donne une gravité, un enjeu, vous voyez, à notre vie terrestre. Hein, nous n'avons qu'une seule vie, disait la petite Thérèse, qu'une seule vie pour vivre de foi. Nous n'avons qu'une seule vie. Alors on va demander au Seigneur qu'à la prière des saints, Samuel face à l'autel a disposé un certain nombre de visages de saints, mais du coup c'est des personnes qui nous ont précédés et qui ont vécu la réalité de leur vie de façon unifiée. Ils n'ont pas été parfaits, parfois on confond sainteté et impeccabilité, non ? Les saints se confessent, les saints ont péché, les saints ont été en colère. On dit d'un saint Jérôme qu'il est piqué des colères noires, etc. Bon, de tas de saints qui avaient énormément de défauts. Mais leur regard allait sur eux-mêmes, allait au-delà d'une psychologie voilà, d'un regard simplement horizontal, mais le regard aussi sur les autres et la création, par leur foi dans la vie éternelle, aller beaucoup plus profond, aller dans quelque chose qui donne sens, au fond, à l'existence. Alors on va demander au Seigneur cette grâce de la foi dans cette éternité, cette grâce de la prière aussi, cette foi dans la prière des saints, dans l'intercession des saints. Nous sommes précédés par une cohorte de ceux qui ont eu cette vie de foi et avec lesquels nous sommes. Et vous le savez bien, dans les églises, et nous c'est notre cas, dans beaucoup d'églises de campagne, il faut traverser le cimetière pour rentrer dans l'église. Nous avons notre cimetière de l'autre côté, où il y a même une tombe, le comte Bivert qui a acheté l'abbaye, qui est bienfaiteur insigne de notre congrégation, bien, il a demandé à être enterré au milieu des frères. Ben parce que il y a cette conscience que ce que nous vivons dans la célébration, c'est déjà cette anticipation de l'éternité. Nous sommes en lien. Vivant et mort, nous sommes en communion. Il y a une unité. Vous voyez, je trouve que c'est ça qui est beau. La vie éternelle unifie tout. Et donc, on va demander à la prière des saints, pour nous-mêmes, qu'ils nous aident, qu'ils nous soutiennent, eux aussi qui ont été dans cette vallée de larmes, hein, comme on dit, ce moment qui n'est pas facile, ce moment de tension. Je veux dire qu'il n'y a qu'au cimetière qu'on est détendu. Mais en attendant, ben voilà, c'est un moment de tension, c'est un moment où on est invité à être dans la foi, etc., et à traverser les épreuves du mieux qu'on peut. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les saints nous soutiennent, nous fortifient, nous prient pour nous. Puissions-nous aussi avoir la confiance qu'eux ont pu avoir de leur vivant. Amen.